L'invité de Denise Dumoulin. Mon invité, Henri Quinson. Henri Quinson avec un ouvrage qui est paru chez Nouvelle Cité, un récit intitulé Moine des Cités et sous-titré de Wall Street au quartier nord de Marseille. On a résumé beaucoup de choses avec ça, sans prise intermédiaire. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que votre livre, à peine sorti, est déjà meilleure vente aux librairies La Procure dans la catégorie témoignage. Et ça m'étonne pas parce que le fond va avec la forme et votre histoire est quand même peu banale et surtout, elle pourrait être, je dirais, le prototype du témoignage qu'on aime bien montrer. Comment passe-t-on d'une grande banque d'affaires de trader à New York en rentrant dans un monastère et en fondant une petite communauté, une petite fraternité dans les quartiers de Marseille. Et en fait, votre livre, c'est tout sauf ça. Et je me dis que c'est un livre qui peut aussi beaucoup aider des jeunes qui se posent la question de la vocation. Parce que vous le racontez avec beaucoup de simplicité et de lucidité, et puis vous montrez bien comment des métamorphoses du dedans, qui est la première partie, aux métamorphoses au dehors, qui est la deuxième partie de ce livre, comment au fond, c'est pas d'un seul coup, dans le désert, une illumination qui a fait que toute votre vie s'est dessinée, était tracée, mais votre parcours s'est fait progressivement. Et d'abord, j'ai remarqué que le livre était dédié à vos grands-parents.
Oui, parce que ma vie, elle me vient de Dieu, mais via un certain nombre de personnes, et parmi celles que je connais dans cette longue chaîne humaine, une chaîne de libération, évidemment, c'est mes grands-parents que j'ai connus. Hein. J'ai connu une de mes arrière-grand-mères, mais mes grands-parents sont tous partis. Depuis l'année dernière, au mois de juin, j'ai dit au revoir à ma grand-mère américaine. J'étais parti d'ailleurs 4 jours pour fêter ses 100 ans. Elle est partie le lendemain. Et je suis revenu en France heureux d'avoir été avec elle pour ce passage. Donc je crois qu'il le méritait. Et donc c'est une manière aussi de me situer justement dans l'histoire humaine qui est passée par mes grands-parents, effectivement. Tout à fait. Et puis après, évidemment, il y a mes parents, mais qui sont, Dieu merci, encore de ce monde et qui peuvent suivre la suite du parcours, le tome 2 ou 3 s'il y en a. Mais c'est vrai que ça commence par cette généalogie familiale qui ne me préparait nullement effectivement à arriver à Marseille dans une cité HLM, puisque mes grands-parents...
Oui, apparemment aux États-Unis c'était plus spacieux la vie.
Exactement, il y avait beaucoup plus d'espace effectivement. Mes grands-parents sont partis, c'est mon grand-père qui était français lui-même mais qui est parti aux États-Unis en 1924, et puis donc ça c'est la branche américaine, et donc mon père est américain, et donc j'ai cette double nationalité par mon père, et j'ai vécu mon enfance à New York, et du côté de ma mère, une famille lyonnaise, donc restée en France, et donc c'est la partie française, voilà. Mais nulle part de présence en Algérie, nulle part de contact avec le monde musulman, ou le monde des cités ou des banlieues, comme on dit aujourd'hui, et donc un peu surprenant, mais je crois que c'était important de dédier ce livre à mes grands-parents, qui étaient heureux aussi de voir ce parcours, pour certains d'entre eux qui étaient encore là, pour voir au moins les prémices.
Alors Henri Quinson, votre livre est titré Moine des Cités, et effectivement, je voulais dire, on en a un peu marre de cette étiquette des bons lieux.
Alors on a la chance à Marseille, puisque nous sommes à Marseille depuis maintenant presque 12 ans, à Marseille on a la chance de ne pas utiliser ce mot, parce que c'est vrai que banlieue c'est la mise au banc, et en fait dans les banlieues il y a quand même les banlieues chics, et puis il y a les banlieues qui sont mal famées ou de mauvaise réputation, parfois d'ailleurs de manière injuste, puisque beaucoup de familles sont là parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement dans un premier temps, mais sont assez dynamiques, et j'essaye de montrer quelques histoires dans mon livre. Mais à Marseille, il y a les quartiers nord et les quartiers sud, qui sont aussi la marque peut-être d'une forme de ségrégation, ou en tout cas de distribution de l'espace un peu contrasté. Et donc, ces cités, il est important aussi de voir les dynamiques qui sont à l'œuvre, et c'est ce que j'ai essayé de retracer dans la deuxième partie de mon livre, c'est-à-dire que, contrairement peut-être aux clichés justement qui circulent un peu trop, les affrontements qu'on a vus peut-être de manière spectaculaire en novembre 2005, donc c'est vraiment un sujet, on est en plein dedans quand même, toujours, eh bien il faut aussi montrer les jeunes qui s'en sortent, les familles qui sont là et qui cherchent à faire de leur mieux, et à travers les échanges, les rencontres de la vie quotidienne, voir en quoi ces univers se transforment. Mais une partie de mon livre, j'ai beaucoup aimé votre introduction, c'est que ce livre, c'est aussi une histoire, pas simplement mon histoire à moi, mais aussi une quête de Dieu. Et donc, à travers ces rencontres, on voit que les uns et les autres aussi, leur transformation de leur représentation du monde et de Dieu, elle se fait justement par, par ces univers qui progressivement peuvent communiquer, se rencontrer.
Ce qui est aussi, je trouve, très très beau dans votre livre, c'est que vous nous donnez justement une vision de l'intérieur, de l'Église, on pourrait dire des Églises, avec à la fois beaucoup de lucidité, beaucoup d'amour, mais il y a pas de clichés ou de vous raconter tout simplement.
Je suis parti en fait de mon journal que je tiens depuis 1989, donc quand Henri-Louis Roche m'a proposé de raconter ma vie, d'abord j'étais un petit peu surpris, je me suis demandé s'il connaissait mon médecin et que j'en avais plus pour très longtemps, à 47 ans, normalement on n'écrit pas encore ses mémoires, mais il m'a dit c'est important de pouvoir répondre justement à cette question de quelqu'un du 20e, 21e siècle dans l'Église et de montrer justement que un cheminement, c'est comme vous l'avez dit en introduction, c'est un long processus, et effectivement l'Église n'est pas forcément noire ou blanche, et donc montrer que à travers ce cheminement, moi-même qui était catholique à mon baptême et qui est toujours catholique, en même temps ma propre vision de Dieu et de l'Église a pu changer dans ce processus, et donc je raconte effectivement ce passage, d'abord pour moi la découverte de la prière à l'âge de 20 ans qui fait que tout d'un coup je découvre bien cette rencontre personnelle avec Dieu, et donc ma propre image de l'Église et de Dieu en est modifiée, c'est-à-dire que je me dis bon, cette Église dont on m'a toujours dit qu'elle était vieille, poussiéreuse, archaïque, etc., je me rends compte quand même que bon, déjà son fondateur Jésus lui-même tirait beaucoup sur l'hypocrisie religieuse, s'est fait condamner par sa propre Église, et donc c'était déjà une manière de revisiter cette image des croyants, des religions de manière générale. Et ce qui m'avait beaucoup illuminé, frappé, c'était d'abord donc cette expérience spirituelle, mais qui aurait pu être une expérience spirituelle vécue par un bouddhiste, une expérience d'illumination, mais dans un deuxième temps, la découverte du visage du Christ à travers les Écritures, qui ne correspondait pas forcément à l'image que j'en avais, et ce mystère, ce beau mystère de l'incarnation, où Dieu ne reste pas dans le ciel, mais vient habiter parmi nous. Et donc, progressivement, moi, la découverte que l'expérience spirituelle ne se suffit pas elle-même, que Dieu vous envoie. Et donc, j'ai d'abord rejoint un monastère, parce que cette expérience d'intériorité, après donc une brillante carrière, comme on dit, dans
oui,
la banque,
c'est qu'elle le dire.
Voilà, où je gagnais pas mal d'argent à l'âge de 28 ans, et finalement, je donne ma démission de la banque.
Il y a deux scènes extraordinaires, Henri Quinson. L'une, vous êtes dans l'avion, vous revenez de New York, et vous dites, j'hésite entre le livre des psaumes, et puis la coupe de champagne.
Champagne ou psautier, effectivement. J'étais à l'époque en vacances en Laponie et je reçois un coup de fil d'une banque d'affaires américaine, et non des moindres,
bah,
Merrill
oui.
Lynch, et qui me dit, voilà, on veut absolument acquérir vos services. Et je dis que je suis en vacances en Laponie. On me dit, mais c'est pas de problème, on vous paye l'avion, vous venez à la journée, en
classe
affaire, vous venez, vous repartez, terminez vos vacances, et donc c'est ce que je fais, effectivement, je vous retrouve dans cet avion d'une compagnie suédoise avec la coupe de champagne.
C'était quand même très dur la vie pour vous à l'époque.
C'était très très dur. Ce qui était dur en fait, non, la vie était belle d'ailleurs, je montre aussi, et vous avez raison de dire
mais
que,
tout à fait.
Voilà, c'est pas du tout du noir et blanc.
Ah non, alors ça j'aime beaucoup, parce que justement on sent que vous l'avez apprécié, cette vie, pour ce qu'elle avait justement de qualité davantage. Et puis, que, ça, de toute façon, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on sent très bien que ça ne vous a jamais tourné la tête.
C'est vrai qu'en même temps, on se rend compte parce que, bah justement, il y a une expérience spirituelle que j'ai faite et qui me fait prendre conscience que, bon, l'argent, c'est bien, hein, d'en avoir suffisamment pour manger tous les jours, on va pas cracher dessus, mais qu'en même temps, ça n'est pas le fin du fin de la vie. Et donc, mes déchirements, mes recherches, etc., sont d'ordre spirituel. Il y a une certaine continuité, malgré ces changements un peu spectaculaires, effectivement, de passer de la banque à la fromagerie de damier.
Comme disait maman, quelle drôle d'idée quand même d'avoir fait autant d'études pour fabriquer des fromages.
Voilà, Sciences Po Paris pour fabriquer des fromages, ça peut paraître surprenant.
Ah mais des fromages de cette qualité,
mais
ça
bon,
n'a pas de prix.
Très bon, voilà. Mais ça, c'est vrai que dans mon livre aussi, j'insiste sur le fait que je n'ai pas quitté les marchés financiers parce que ce serait un monde pourri et que voilà.
Exactement.
Alors ça, je pense que c'est important à entendre parce que justement.
Surtout en ce moment.
Oui, alors il y a évidemment des moutons noirs, bien sûr. Il y en a dans tous les métiers. Mais c'est important aussi pour comprendre que justement ce choix de vie, c'est un choix libre et ça n'est pas un choix qui consiste justement à refuser le monde, mais au contraire à s'y incarner, chacun a sa vocation propre, mais c'est pas du tout justement une fuite du monde. Et ça, c'est dans mon parcours une recherche assez importante justement dans la thématique monastique, de voir comment cette vie à la fois de célibataire, monos voulant dire seul, comment ces moines s'incarnent dans un lieu, et donc il y a toute une recherche sur le thème du désert. Bon, d'abord pour moi Tamier, et après les cités HLM, mais qu'est-ce que c'est que le désert? Est-ce que c'est simplement un lieu de solitude et de silence, ou est-ce que c'est aussi un lieu qui a, disons, des notes évangéliques, peut-être un peu protestataires, et donc les déserts en Égypte étaient aussi des lieux où on était finalement à la périphérie de l'Empire romain, donc on retrouve la notion de banlieue, et parfois les moines n'étaient pas très amènes à l'endroit des évêques eux-mêmes, qu'ils trouvaient trop compromis avec le système, et donc il y a une petite note de fonction critique de la vie religieuse qu'on retrouve, alors qu'au début je suis plutôt conduit par une voie d'intériorité, et c'est des notes que je découvre progressivement et qui enrichissent mon parcours.
Alors avant d'arriver là, il y a la deuxième scène que je trouve extrêmement croustillante. Vous êtes avec le directeur donc de cette très grande banque, et puis vous lui annoncez votre décision. Il y a le PDG qui demande à la voir, il répond non au téléphone, je suis en conférence, et il vous consacre un temps fou, et il n'arrive pas à comprendre, et finalement quand vous lui expliquez pourquoi vous partez, il vous dit je préfère ça au fond. Lutter avec Dieu, ça lui paraît là déjà plus proportionné.
Oui,
c'est très joli comme réaction.
Oui, alors c'est là l'intérêt de tenir un journal, même si ce livre n'est pas mon journal.
Non.
Mais c'est important de garder ces événements très concrets, très factuels, qui ne sont pas de la théorie, des moments qui m'ont paru effectivement extrêmement intenses, où face à cette personne qui a cette carrière prestigieuse, qui effectivement refuse de parler à son PDG, qui normalement doit tout de suite avoir l'attention de tout le monde dans l'institution, parce qu'il se rend compte qu'il y a un événement qui surgit, qui dépasse infiniment l'organigramme de la banque où je travaille, et que voilà, il y a une présence presque palpable dans cette pièce, dans notre conversation, où il cherche à comprendre vraiment qu'est-ce qui peut bien faire qu'un cadre de la banque finalement refuse une carrière toute tracée et s'en va rejoindre un monastère. Question pour lui, et je n'ai pas toutes les réponses, mais on part de cet événement qui surgit là de manière un peu inattendue.
Alors, vous arrivez donc à Tamier, il y a des raisons, puisque justement, il y a quand même la maison des grands-parents qui est pas très très loin.
À Douin,
près du lac d'Annecy, et puis donc votre maman est lyonnaise, et Tamier, un lieu qui, pour vous, a été extrêmement important, parce que c'est là que vous avez pu vérifier certaines choses, et que, alors, évidemment, il y a certaines rencontres, vous êtes accueillis par le petit frère des fleurs, frère Didier. Qui a toujours les mots qu'il faut.
Absolument, on a toujours été très très amis avec Didier.
Et puis, on n'oublie pas, alors il y a une chose que je trouve très très jolie. Et j'allais dire, si tout ceux qui rentrent au séminaire ou dans un monastère avec cette idée-là, je trouve que la vie serait beaucoup plus belle, et c'est que vous allez voir vos parents, vous avez postulé pour Tamier, et vous dites au retour de la promenade, je prends le thé avec ma mère, elle compare le bouquet de fleurs que je lui ai apporté à celui que mon frère aîné lui avait offert à l'annonce de son entrée au séminaire. Deux célibataires quand on a quatre fils, ça fait beaucoup pour qui préfère les pourvoyeurs de petits-enfants aux, entre guillemets, vieux garçons que sont, entre guillemets, toujours les curés et les moines. Alors, j'allais vous dire, si à ceux qui entendent, je trouve que c'est une très très belle idée d'offrir des fleurs à sa maman quand on a des choses à lui annoncer comme ça. Alors, vous, c'était tout en couleur.
Oui, apparemment, d'après ma mère, je crois que c'est pas faux, j'ai le goût d'une certaine profusion, que frère Didier d'ailleurs partage et apprécie effectivement à Tamier. Et puis oui, je parle de pour moi ça me rappelle effectivement ma fascination par exemple pour les dessins animés. J'ai toujours dessiné, fait un peu de bande dessinée, et je me rappelais de Fantasia. Il paraît que quand j'étais enfant, un film que j'ai vu sept fois je crois.
Sur la musique de l'apprenti sorcier de Paul Ducasse.
Exactement, et j'étais là, que c'est beau, et donc il y a cette sensibilité aux couleurs, à la beauté de la vie, et je crois que c'est important, à travers ces détails factuels dans cette histoire, de montrer que le chrétien est un être humain, et qu'un être humain chrétien est quelqu'un qui aime la vie, qui justement la célèbre par ses fleurs, par ses événements de la vie quotidienne, qui parle plus fort que les mots, très souvent, et je crois que donc c'est des moments d'émotion, évidemment quand un fils comme ça part pour un monastère que ma mère à l'époque ne connaissait pas d'ailleurs, et ces fleurs c'est là pour célébrer ce moment assez intense et qui est difficile à expliquer effectivement avec des paroles.
Alors effectivement, d'habitude ça commence par une petite semaine pour regarder, va-t-on dire, et vous recevez le petit mot le 23 octobre 89 de frère Didier, qui était l'hôtelier à ce moment-là. Mon cher Henri, je viens de recevoir ta lettre, je t'attends ce samedi 28, si cela te va, pour au moins une semaine, on verra alors ce que Notre-Dame de Tamier peut faire pour toi, à bientôt, joie. C'était effectivement, ça pouvait être que frère Didier ça, avec ce mot-là en finale. Moine des cités de Wall Street, au quartier nord de Marseille, Henri Quinson, chez Nouvelle Cité. Et qu'est-ce qu'on peut écouter d'autre sinon le cœur des moines de Tamier, avec un peu de chance, vous chantiez dessus. Et c'est Seigneur de ma vie, ça fait partie du disque Espérance de la gloire, et on se retrouve ensuite. Radio Notre-Dame.